Eh bien, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence un peu exceptionnelle, puisque c'est la première fois que la librairie propose un petit film réalisé par l'équipe de la librairie sous la direction de Denis Mola, un film réalisé à Malaga. Malaga, pour les Bordelais, pour le monde entier, y compris les Slaves, je viens de l'apprendre, c'est la maison de François Mauriac. Et Malaga est le sujet du premier documentaire réalisé par les libraires de votre librairie autour des maisons d'écrivains. Alors j'ai à côté de moi deux éminents mauriaciens. Sans eux, cette soirée n'aurait pu être la même. Je les remercie d'autant plus qu'ils ont participé activement à la réalisation de ce film. Caroline Casville, qui est maître de conférences avec un S à l'université de Bordeaux-Montaigne, une des grandes spécialistes de François Mauriac, et Jean-Claude Rago, qui est le directeur du Centre François Mauriac de Malaga. Et tous deux nous ont beaucoup aidés, beaucoup suivis, accompagnés jusqu'au bout pour faire en sorte que ce film soit le plus proche possible de l'esprit de cette maison qui appartient désormais au patrimoine aquitain, puisque, comme vous le savez, cette maison désormais appartient à tous les Aquitains. Voilà. Alors je précise juste, hein, Jean-Claude, que effectivement, Malaga et Jean-Claude nous a permis d'aller filmer des endroits qui ne sont pas accessibles au public. Hein, et c'est ce qui est, donc des choses, vous avez vu des choses qu'on ne voit pas habituellement, ou que ne voient que les gens qui ont la bonne carte. Alors Jean-Claude.
Je voudrais juste avant peut-être remercier Denis Mola et son équipe et David et les libraires de la maison parce qu'ils sont venus filmer chez nous. Denis Mola a filmé, David a filmé. Ils ont tous eu un vrai rôle actif. Ça devient des vrais professionnels de l'audiovisuel, en plus de leur métier de libraire. Et en plus, c'est une équipe extrêmement sympathique. Vous avez vu le sens de l'humour de David. Donc, on a beaucoup ri aussi. Et donc, on est très content qu'ils aient eu cette bonne idée de commencer une collection de films sur les maisons d'écrivains. Et on espère bien que ça va pouvoir continuer.
On l'espère aussi.
En tout cas, c'était très sympathique. Alors, pour les chambres, pour le premier étage, il y a deux raisons à l'origine qui font que ces chambres n'étaient pas visibles par le public. La première, c'est que la famille, au moment de la donation, n'y tenait pas. Il y avait comme le fait que dans une maison, on vous reçoit dans les salons, dans les pièces à vivre, mais on ne va pas aller regarder les chambres. Il y a un côté un petit peu privé, personnel. Donc il y avait la volonté des enfants de ne pas livrer en pâture la partie privée au public. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il n'y a qu'un seul escalier et que les conditions de sécurité ne permettaient pas d'aller au premier étage avec des groupes importants. Alors je dirais que les choses évoluent. D'abord parce que maintenant le temps a un peu passé et que donc c'est peut-être moins ennuyeux d'aller voir les chambres dans le cadre de visites qui seraient organisées autour de ça pour des groupes qu'ils souhaitent. On a des petits problèmes de désordre au niveau du premier étage, de désordre dans le gros œuvre. Et donc d'abord on va faire un programme de restauration qui est en cours depuis un bout de temps, mais qui va finalement enfin commencer, entre la région qui est propriétaire, l'État qui nous surveille en tant que monument historique classé. Donc ça va se faire. Et ensuite, on pense avoir l'autorisation de pouvoir aller avec des groupes limités au premier étage. Ce qui fait qu'on aurait la conception suivante. Le public de tous les jours visite la maison comme aujourd'hui, et sur demande, des groupes limités, c'est la commission de sécurité qui dira le chiffre, mais ce sera probablement une dizaine de personnes, si vous voulez, des groupes limités pourraient avoir accès au premier étage. Toujours dans la conception que nous avons, qui est que nous sommes une maison et non pas un musée. Autrement dit, la grande différence, c'est que les musées s'organisent, y compris sur le plan architectural, pour présenter leur collection. Autrement dit, on construit un bâtiment pour mettre en valeur les choses qu'on a à montrer. Là, dans une maison d'écrivain, c'est l'écrivain qui constitue sa propre collection, qui met son mobilier là où il veut, qui accroche les tableaux qu'il a envie d'accrocher. Et donc, ça n'est pas fait pour que le public vienne visiter cette maison, sauf les gens qu'il reçoit. Donc on est très sur cette idée que rentrer dans une maison d'écrivain, c'est comme y être invité. C'est la raison pour laquelle on ne fait aucune visite libre dans la maison elle-même. On est toujours accompagné. On invite dans la maison, on rentre dans la maison parce qu'on y est invité et qu'on y est accompagné. Ce qui veut dire que dans la partie historique, on ne met pas de cartel, chose comme ça. On ne veut pas transformer la maison. On ne veut pas mettre des légendes sous les tableaux. Voilà. Par contre, dans l'espace extérieur, par exemple chez Du Rouge, c'est un espace qui est fait pour ça. Donc là, on peut trouver tous les moyens technologiques d'aujourd'hui, ou des interprétations, ou des commentaires, il n'y a pas de problème. Dans la maison elle-même, non, on souhaite la garder. L'équilibre est dur à trouver, parce que l'esprit du lieu, il tient à tous ces détails que François Mac et sa famille ont accumulés au fil du temps. Si on commence à toucher à tout ça, on risque de détruire l'esprit du lieu. Donc on veut le conserver, et en même temps, il faut qu'on puisse expliquer. Donc on le fait dans un deuxième espace qui est à côté. Il y a des grands débats en ce moment. Il y a à Paris, au mois de mars, à Chaillot, un grand débat sur conservation et fréquentation du public. C'est-à-dire que les conservateurs réfléchissent à comment est-ce qu'on peut aller vers l'augmentation du nombre de personnes qui viennent dans les musées ou dans les maisons, et en même temps garder la priorité à la conservation du lieu. On pourrait dire que c'est antinomique. Plus vous avez de monde dans un espace, et plus vous l'abîmez. Mais en même temps, plus vous avez envie de le montrer, plus vous allez le... Voilà. Donc comment concilier les deux? Et je pense qu'une des façons de le concilier, c'est de bien distinguer les fonctions. La maison d'écrivain, c'est le lieu historique, c'est l'esprit. C'est quelque chose qu'on conserve dans son état. L'interprétation, c'est dans un espace qui se trouve à côté. La représentation, ça se fait encore ailleurs. Par exemple, Pierre Arditi, dans les jardins, qui lit des textes de Mauriac, dans l'espace général du parc, mais évidemment pas dans la maison. Voilà, c'est comment distinguer les... Donc, pour répondre à votre question, je reviens, je pense qu'on va pouvoir évoluer pour la visite du premier étage dès que la commission de la sécurité nous en donnera l'autorisation, c'est là quand on aura fait quelques travaux. Enfin, rassurez-vous, on ne va pas faire un escalier de secours de l'autre côté. Enfin, vous voyez, on est dans les monuments historiques, on ne va pas faire une échelle métallique à l'extérieur pour pouvoir descendre plus vite. Enfin, non. Donc, on aura l'autorisation en fonction des conditions actuelles de la maison.
Alors, une dernière question que je n'ai peut-être pas aimée, c'est le thème...
Dans le micro, la question.
Oui, oui. Pardon.
Le thème des vendanges.
Alors, des prochaines vendanges.
Oui.
Il est presque arrêté, pas tout à fait. Nous en sommes, pour l'instant, on travaille sur le thème « transmettre ». Bon. On est toujours pris entre la volonté de rester dans l'actualité sans y coller trop. Bon. L'an dernier, c'était le thème de l'autre. Que vous en souvenez, c'était un thème qui était un petit peu compliqué à comprendre tout de suite. Puis finalement, on a vu pendant les vendanges que c'était un thème qui était vraiment intéressant, c'est-à-dire le regard de l'autre, le besoin de l'autre, le rejet de l'autre, l'étranger, etc. Et on a bien vu que c'est des choses qui sont complètement actuelles par rapport à ça. Bon, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, notamment au mois de janvier, bon, on voulait trouver un thème qui fasse écho, mais sans être totalement collé à l'actualité, d'autant plus qu'on sera au mois de septembre. Et on a pensé, pour l'instant, tourner autour de l'idée de transmettre. Transmettre, ça veut dire qu'est-ce que notre société a envie de transmettre comme valeur, qu'est-ce que l'école a envie de transmettre, qu'est-ce que les parents ont envie de transmettre, qu'est-ce qu'une maison d'écrivain a envie de transmettre, etc. Donc, par quel biais passe la transmission, qu'est-ce que c'est qu'un héritage, etc. Avec un politique, un écrivain, un psychanalyste, une historienne, sociologue, oui, bon, on est en train de... Anne Wiazemski est venue présenter son dernier livre. Comme chaque fois qu'elle vient chez Mola, je l'ai invitée à venir à Malaga. Pour l'instant, elle n'y tient pas. Parce qu'elle n'est pas contente que l'échelon de ses parents ait fait cette donation, et c'est pour elle une souffrance. Donc elle nous l'a dit à plusieurs reprises. Donc elle m'a redit, je n'y tiens pas. Je dis, mais j'aimerais que vous veniez au vendange, parce qu'on va faire comme thème transmettre. Et voilà, cette relation que vous avez à la maison, familiale, par rapport à l'idée de transmission, ça me semble intéressant. Voudriez-vous en parler, peut-être avec votre frère Viaz, vous pourriez venir tous les deux. Je lui dis, bon, je vais réfléchir. Et puis après, je lui dis, mais j'ai peut-être l'intention d'inviter Daniel Cohn-Bendit sur ce thème. Elle m'a dit, alors là, si Daniel vient, je viens aussi.
Si Daniel vient.
Alors, hop, j'ai invité Cohn-Bendit. Alors, il ne m'a pas encore répondu. On va voir si, s'il vient ou pas.
La solidarité des rouquins, pour ceux qui ont lu.
Oui, parce qu'elle en parle dans son livre. Vous savez qu'il était à Nanterre, elle aussi. Enfin bon.
Oui, alors on sent que c'est quand même... autour de cette maison. Il y a quand même beaucoup de choses qui vibrent encore beaucoup, des sujets très, très sensibles.
Ah oui.
On le sent même quand on y est. Est-ce que c'est, vous parliez justement d'un équilibre, d'un juste milieu, le juste milieu entre restaurer, conserver, accueillir du monde et en même temps ne pas en accueillir trop? Comment fait-on pour en permanence tenir l'équilibre? Se dire, on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de monde qu'il y a, mais en même temps, s'il y a trop de monde, ça ne pourra plus avoir cet esprit-là.
Je pense que tous les acteurs culturels sont dans cette difficulté qui est que le premier critère sur lequel on a tendance à juger leur action, c'est la fréquentation. C'est-à-dire que on fait d'ailleurs la bêtise souvent nous-mêmes. Moi, je me souviens qu'au tout début, à Malagar, je mettais en titre de mon rapport, en tête de mon rapport d'activité, la fréquentation. Mais je suis bête, je conteste le seul chiffre de la fréquentation comme critère de notre activité, et c'est celui que je mets devant. C'est un peu idiot. Donc, on est tous un peu piégés, parce que si on dit « j'ai fait 10% de visiteurs de plus que l'an dernier », tout le monde applaudit. Mais seulement, on voit bien qu'il y a des limites.
Eh oui.
Bon. Donc, il faut trouver d'autres formes d'activité. Donc, je pense que la logique pour nous, enfin, c'est au cœur de notre projet, comme vous l'avez compris tout à l'heure, c'est que la visite de la maison d'écrivains est une visite qui ramène à la littérature. C'est notre identité. Les maisons d'écrivains sont des maisons qui permettent de... C'est un autre moyen de revenir vers l'œuvre. Bon. Donc, si on a cette logique de la visite qui est un passage vers l'œuvre, à ce moment-là, ça veut dire que tout ce qu'on fait à Malagar doit être organisé autour de ça. Donc, l'arrivée à Malagar, la visite elle-même, l'interprétation après, la présentation ensuite. Donc, on peut essayer de construire des activités autour de ça. On sera limité au niveau du nombre de personnes qui rentrent dans la maison, mais on peut, à côté de cette visite de la maison, par exemple, la nuit de la lecture, les vendanges, avoir des fréquentations importantes, qui là aussi a ses limites. Quand cette année, nous sommes montés, je crois, à 650 personnes pour la nuit de lecture. Et toute mon équipe me disait, c'est formidable. Mais je disais, mais attendez, mais on est fous, il faut qu'on arrête. Parce que sur la prairie, quand on a mis 500 voitures, on est, si jamais il y a un orage, on est fichu. Quoi, ça.
C'est, il y a déjà eu un orage d'ailleurs, il y a deux
ans. Bien sûr.
Il y a deux lampes qui ont survécu quand même. C'était merveilleux.
Donc c'est pour dire qu'on est forcément limité. Donc on est content que le public s'intéresse à ce qu'on fait, bien entendu. Et en même temps, on est toujours soucieux de... Bon, d'abord, il faut garder la qualité de la visite. Et puis ensuite, voilà. Bon. Donc, à la fois, nous avons, c'est vrai, une augmentation régulière de notre fréquentation. Et en même temps, chaque année, on se dit, est-ce qu'on n'a pas atteint un palier? Bon, si je prends les activités avec les scolaires, on a multiplié par 3 ou 4 le nombre d'élèves, de collégiens, de lycéens qui viennent chaque année. Et là, on a fait un très, très gros effort. Mais c'est vrai qu'en ce moment, nous avons des classes d'écoles primaires du sud de Gironde qui viennent sur une thématique précise, travailler. Alors, nous sommes en hiver et ça fonctionne très, très bien. Donc, on peut développer d'autres types d'activités. La visite de la maison elle-même, forcément, elle est un peu...
D'accord. Alors, on l'a vu dans le film, on a essayé de le montrer. Caroline Casville en parle notamment. Mauriac est un écrivain qu'on comprend mieux, ou qu'on comprend bien en tout cas, par les territoires qui sont les siens, par les lieux. Alors j'aimerais qu'avec Caroline, on évoque un peu en quoi les lieux sont-ils si importants dans l'œuvre de Mauriac, et justement en quoi Malagar a son importance pour comprendre Mauriac. Certains écrivains, on peut les lire sans absolument rien savoir, ou quand on voit dans leur maison, ça ne rappelle rien. Quand on est à Malagar, on a le sentiment que l'œuvre est là et nous entoure. En quoi est-ce particulier à Mauriac?
Alors d'abord pour une raison toute simple, c'est que Mauriac, dans son œuvre littéraire, parle de Malagar de façon transposée ou transfigurée, avec des noms qui sont différents, Calaise pour indiquer Malagar. Donc il y a toute une géographie d'un territoire qui est bien présente dans son œuvre, transfigurée, transposée, ça c'est une des premières choses. Et en même temps, à l'inverse, justement le fait que cette œuvre incarne un territoire, le territoire en contrepartie devient autre chose. Quand on pénètre à Malagar, c'est ce que vous avez dit, l'âme de Mauriac, elle est présente, mais elle est présente parce qu'il l'a incarnée dans son œuvre, et donc ce territoire n'est plus tout à fait le même. C'est un territoire qui est un territoire d'imagination aussi. Hein. Et je crois qu'on parlait de la littérature incarnée à travers cette maison, mais je pense que finalement, Malagar, ça donne... c'est le sens d'une œuvre à travers les sens. Hein. On pénètre dans la littérature à travers... à travers des odeurs, à travers une saison. Et voilà, il y a tout un fonctionnement d'imagination et du réel qui fusionne et qui donne à voir une diversité poétique.
Alors Mauriac donc a beaucoup parlé de Malagar, plus ou moins de façon ouverte ou cachée. Est-ce que finalement, après sa disparition, on a découvert des choses sur Malagar et sur lui qu'il avait tenté de dissimuler ou est-ce que les murs parlent en quelque sorte pour lui après lui ? Je parle à la chercheuse, c'est-à-dire qu'on travaille sur un matériau. Vous nous disiez par exemple que que lui-même ne connaissait pas le journal de son...
Oui, c'est ce que je pensais. Quand
voilà, il s'avère qu'il y a comme si on pouvait découvrir des choses d'un lieu que lui-même ne connaissait pas ou en tout cas dissimulé.
Oui, oui, absolument. Alors le journal de son père, de Jean-Paul Mauriac, François ne le connaîtra pas. C'est un des hasards du destin. Et c'est Claude, le fils, qui va découvrir le journal de son grand-père. Alors bien sûr, Malagar a ses mystères, les mystères de cette famille, puisque je crois que ce qui est tout à fait spécifique dans cette maison d'écrivains-là, c'est ce que je disais un petit peu dans le film, c'est qu'il y a 6 générations de Mauriac qui traversent ce lieu. 4, François Mauriac est le 4e, puisque Malagar arrive chez les Mauriac en 1843. Donc l'arrière-grand-père de François Mauriac qui achète cette propriété, son grand-père qui commence à l'investir mais qui n'y vit pas, mais qui commence à aimer Malagar par-dessus tout. Il veut se faire enterrer avec la terre de Malagar sur sa tombe. Ensuite, le père de François Mauriac, mais qui meurt jeune, qui écrit ce journal intime et dont les descriptions, le paysage, les annotations sont très très proches de celles de François, ce qui est assez fabuleux. Il y a une écriture familiale qui marque une sensibilité commune chez les Mauriac, donc de Jean-Paul, François, Claude, Anne Wiazemski, qui, par le biais de la fiction, parle aussi de Malagar dans un roman qui s'appelle Marimée, un des premiers romans d'Anne Wiazemski. Donc il y a un mystère Mauriac, Malagar, avec des signes du destin que Claude Mauriac se chargera de dévoiler aussi dans un des...
Et vous avez le sentiment que la maison est on sent encore la présence, par exemple, de Claude Mauriac dans cette maison ou pas ? Parce que c'est quand même Claude Mauriac, c'était un écrivain qui a été reconnu quand même à une époque qu'on oublie un peu. Enfin, la figure du père a un peu pris le dessus.
Oui.
Claude, qui a été une personnalité importante du monde des lettres, on a l'impression qu'il est un petit peu presque étouffé de façon
oui, absolument.
Dans sa postérité. Est-ce que Malagar, c'est pas aussi ça peut être une revanche pour lui, en tout cas toujours pour le connaître, de le faire réapparaître, si d'une façon ou d'une autre ?
Oui, je pense qu'en fait, le rôle du fils est très difficile par rapport à celui du père. Soit on est en rivalité, soit on est en complète admiration, fascination. Claude Mauriac va échapper finalement à la rivalité pour se faire le scribe de son père, en quelque sorte. Donc il va vouer sa vie et son écriture à tracer la mémoire de François Mauriac, la mémoire d'écrivain. Alors, je ne suis peut-être pas claire, je vais expliquer ça. C'est-à-dire que l'œuvre monumentale de Claude Mauriac, qui s'appelle Le Temps immobile, est en fait, c'est un journal intime, déconstruit. C'est-à-dire que Claude Mauriac va écrire en 1938 quelque chose sur Malagar, puis en 1980, et il met ça bout à bout. Donc, c'est vraiment une création tout à fait originale dans le genre du journal intime. Et en fait, il passe son temps à, une grande partie de son temps et donc de son œuvre et de son écriture, à retracer la façon dont François Mauriac existait, était écrivain, etc. Donc il se met au service de son père. Il met sa propre écriture au service de son père. Donc il accepte d'être le second. Et en même temps, c'est très compliqué parce qu'il fait œuvre sur l'œuvre de son père aussi. Donc il y a en effet ces problèmes de place chez les Mauriac. Que reflète le territoire ? François Mauriac revendique son territoire parce que c'est son identité. Il revendique d'être au carrefour de Malagar et de Saint-Symphorien, des Landes
peu,
et, de, voilà, et des vignes. Et c'est des identités. Ces questions de place qui sont véhiculées à travers les territoires.
Et est-ce que vous avez le sentiment, alors je pense que je connais la réponse, mais que Malagar, tel que la maison se présente actuellement, le domaine, permet à des gens qui ne connaîtraient pas François Mauriac de s'en faire une idée ?
Oui, c'est ce qui est très important, c'est que non seulement de s'en faire une idée, mais de se l'approprier. Je crois que, Jean-Claude l'a dit tout à l'heure et vous l'avez souligné, c'est que la maison d'écrivain, c'est une relation singulière et personnelle, comme on est un lecteur singulier et personnel face à un livre. Chacun arrive avec son histoire, sa sensibilité, et la maison d'écrivain, elle relaie parfaitement cela. C'est-à-dire qu'on arrive, on pénètre dans une maison qui nous fait voir à la fois une maison qui n'est pas tout à fait comme les autres, puisqu'elle a été la source d'une création, donc d'une poésie au sens strict, hein, la poésie c'est la création, et je pense que chaque visiteur comme chaque lecteur se réapproprie, invente son rapport à l'œuvre et donc son rapport à la maison.
Alors Jean-Claude, il y a une autre maison, François Mauriac. Pendant des années, moi je me souviens, je passais mes vacances à Saint-Forien, il y avait une maison tapis dans une petite forêt, on disait c'était le chalet de François Mauriac, personne ne pouvait y accéder. Qu'en est-il du destin de ce fameux chalet de Saint-Forien et comment se situe-t-il par rapport à Malagarpe, dans la mesure où il nous appartient aussi, ce chalet?
Alors, ce chalet, il est plus récent, évidemment, que Malagarpe, puisqu'il a été construit par la mère de François et de ses enfants. Elle a fait appel à un architecte de la ville d'hiver d'Arcachon. C'est pour ça qu'on a cette chose un peu incongrue d'avoir un chalet arcachonnais au milieu des pins. Et c'était le lieu de vacances lorsque la mère partait avec ses enfants. Malagarpe était une propriété viticole où on n'habitait pas en réalité à l'époque, et il a fallu que quelques étés soient particulièrement chauds à Saint-Symphorien et torrides pour que vienne à la famille l'idée d'aller prendre un peu de fraîcheur à Malagarpe. Et du coup, c'est de cette façon-là que le rapport s'est fait un petit peu. Lorsque les choses ont été réparties par la mère avant sa disparition. C'est donc Malagarpe qui est revenu à François, 1927, alors que le chalet de Saint-Symphorien est revenu à Pierre. Donc, à partir de 1927, là, en effet, François Mauriac et sa famille sont venus très régulièrement. C'était à Pâques, c'était pendant l'été, c'était pendant les vendanges. Voilà, en gros, c'était les périodes où ils venaient, jusqu'en 1968, je crois, qui est sa dernière année de présence. Il est mort en 70. Bon. Je pense que Jean Lacouture disait Saint-Symphorien c'est François et Malagarpe c'est Mauriac. Bon, c'est une façon de dire il est très imprégné dans son enfance des pins et de cette atmosphère des Landes, enfin des Landes girondines mais des Landes, donc de cette espèce d'oppression, alors que la période adulte est plutôt celle des vignes et de l'horizon. Donc on voit bien comment se croisent ces deux influences très fortes, la troisième étant celle de Bordeaux, bien sûr, dans son œuvre.
D'accord. Donc, ce n'est pas une maison aussi anecdotique que ça, finalement.
Non.
Alors, l'intérêt de la région pour...
Oui, alors, du coup, lorsque la famille de Pierre Mauriac, Catherine Cazenave a... Bon, il y a eu plusieurs vols dans cette maison qui n'était pas vraiment occupée, etc. Elle a décidé de s'en séparer. Et Jean Lacouture, à l'époque, a été l'ambassadeur de l'homme qui voulait absolument que la région puisse acheter ce chalet, puisqu'il a convaincu Jean Lacouture, Alain Rousset, que puisque la région était déjà propriétaire par donation de Malagarpe, elle avait une sorte de devoir... d'acquérir la deuxième propriété, de façon à reconstituer un petit peu les deux domaines mauriaciens. Bon. Il s'est laissé convaincre finalement. Il y a eu une période où il ne savait pas exactement ce qu'il voulait en faire.
Oui, il ne se passait pas grand-chose. Elle était un peu toute seule.
Il ne se passait rien
forêt,
parce qu'il y a eu un ensemble, une série d'études. Il y a eu le premier cabinet conseil qui a été missionné, s'appelait les Maîtres du Rêve. Il a fait une sorte de perspective stratégique sur voilà ce qu'on pourrait en faire, voilà ce qu'on ne pourrait ne pas en faire. Enfin bon, il y a beaucoup d'hésitation et finalement, comme vous le savez, donc il a été décidé par la région que ce lieu serait un lieu de résidence d'écriture. Donc il allait être restauré pour que des écrivains puissent venir s'y installer pendant un petit moment. Comme c'est une maison où on se retrouvait pendant les vacances, c'est aussi un lieu de résidence collective. Donc ça veut dire qu'une équipe, une équipe de théâtre, une équipe de cinéma, etc., peut s'y retrouver pendant une semaine ou deux ou trois.
Oui, en même temps, il ne faut mieux pas rester seul dans cette maison en plein hiver, quand même.
C'est mon avis, hein, c'est mon avis. Hein, voilà. D'ailleurs, la famille n'y allait pas.
Hein. De, oui,
la famille fréquentait le lieu entre Pâques et la Toussaint.
D'accord, parce qu'on peut visiter le château d'eau, le stade, à la limite, mais c'est un peu... Malgar est plus riant, quand même.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc... pour la résidence diverse, vous voyez, la région a droit à un pourcentage de perte, mais inférieur à 10% en principe.
Il n'y a pas eu d'incident pour
l'instant. Non. Donc c'est la région qui gère directement le lieu, et les résidences sont gérées par son agence qui s'occupe du livre et de la lecture, qui s'appelle Éclat.
D'accord.
Donc voilà, donc ça fonctionne, et il y a un taux d'occupation par des résidents assez important. Donc en effet, c'est un lieu qui... Alors évidemment, le problème, c'est que du coup, le chalet n'est pas visitable par le public. Puisque la plupart du temps, vous avez des personnes qui habitent.
Qui vivent.
Par contre, le parc est ouvert au public. Donc, il y a un joli parc de...
Quelques vieux arbres.
D'une dizaine d'hectares. Certains ont été bien malmenés par les deux grandes tempêtes. Mais enfin, bon, voilà. Il y a un joli parc.
Alors, Mauriac, c'est l'avantage. Il y a une actualité toujours Mauriac. C'est-à-dire que c'est pas... Il y a ces auteurs, parfois, pendant des années, on n'entend parler de rien. Mauriac, il y a de l'actualité éditoriale, etc. Mais il y a aussi, on va en parler avec Caroline, des cahiers François Mauriac. C'est-à-dire qu'il y a toujours une grande maison parisienne qui édite régulièrement des cahiers. Alors, les prochains seront consacrés à quoi ?
Ben, enfin, précisément, si, ça... à l'écrivain et ses territoires. Donc, ça a tombé très bien.
On est en plein dedans.
Malheureusement, on n'a pas pu avoir l'ouvrage pour vous le présenter ce soir. Et c'est un peu dommage, mais bon.
Ils sont à l'imprimerie.
Ils sont, oui, même en cours de relecture.
En tout cas, ils témoignent d'une vraie vivacité des études mauriaciennes.
Oui, on a une publication annuelle donc, chez Grasset qui reprend les colloques... que l'on fait aussi chaque année.
D'accord. Et alors, est-ce qu'il y aura un colloque cette année ?
Oui, qui va suivre donc, ces territoires de près, puisque ça s'appelle les chemins de la création. L'art n'est que l'ombre des choses à venir. Et on va donc en République tchèque, à l'université de Brno. On était déjà allé chez nos collègues tchèques en 2012. On poursuit ce partenariat à l'étranger. On fait un colloque sur deux à l'étranger, un colloque sur deux, une année sur deux à Malagar. Et là, c'était en fait l'envers du décor qui nous a intéressés, c'est-à-dire comment Mauriac parle de sa création. Mauriac a beaucoup écrit sur la façon dont il concevait son œuvre romanesque, son rôle de journaliste. Bon. Donc il y a ce qu'il dit. Il y a ce qu'il ne dit pas, parce qu'il y a des choses qu'il ne dit pas. Donc on va faire les enquêteurs pour essayer de découvrir à travers notamment des manuscrits, des tapuscrits, donc cette face un peu cachée du créateur. Et voilà, donc on espère qu'on sera quand même assez nombreux.
Est-ce que je peux dire, Caroline, qu'on a découvert qu'en Europe centrale, en Europe de l'Est, il y avait beaucoup d'enseignants en littérature française qui connaissaient assez bien Mauriac. Et que finalement, Mauriac était un auteur qui avait traversé les différentes époques politiques de ces régions. Et on s'est fait expliquer qu'en fait, au départ, il était plutôt supporté par les établissements de type catholique, comme étant un écrivain catholique. Et lorsque les régimes plus communistes sont arrivés, ils l'ont conservé parce qu'ils ont trouvé que ses positions contre la bourgeoisie étaient assez intéressantes. Et donc, c'est devenu un écrivain presque contestataire. Donc, ils l'ont conservé. Et puis, maintenant que les pays sont redevenus, suivant les cas, libéraux, etc., bon, eh bien, les établissements catholiques reprennent Mauriac en compte. Et donc, on a, si on va en République tchèque, c'est parce qu'on a une bonne dizaine de collègues. Il y a deux ou trois tchèques, des slovaques, deux polonais, deux russes, j'ai dit les hongrois. Enfin bon, on a plusieurs professeurs de littérature française de ces pays d'Europe centrale qui s'intéressent à Mauriac et qui travaillent sur lui et qui viennent communiquer avec nous en français sur les thèmes qu'on leur propose. Et donc, dans ce colloque dont on parle, qui aura lieu au mois de mai, on aura probablement à peu près 25 spécialistes. Il y en aura une douzaine qui viendront de France, d'Italie, enfin des pays, et le reste viendra des pays d'Europe centrale. Donc, c'est assez intéressant parce que ça montre que Mauriac, qui est traduit dans de très nombreuses langues, continue à être enseigné dans les universités d'Europe centrale. Et ça, on en est très heureux.
Alors le vent mauriacien, pardon Caroline, oui.
Allez-y. Non, je pensais justement qu'on est en train de finir un dictionnaire mauriac aussi, mais
on reviendra,
donc, on reviendra peut-être pour ça, qui a mobilisé beaucoup de chercheurs mauriaciens du monde entier, et voilà, environ 70 contributeurs.
Et c'est à quel horizon? Parce que c'est vrai qu'on en entend parler depuis longtemps.
Oui, c'est pour ça que je vous appelle.
C'est une question qu'il ne fallait
en
pas poser.
En principe, non, mais ça devrait être remis à l'éditeur mois de juin.
D'accord, voilà. Donc une occasion de se revoir. Et alors, donc je dis que le vent mauriacien souffle de l'Est, mais j'ai une question assez vaste et finalement que vous devez aborder et dont vous devez vous rendre compte vous. Est-ce qu'on lit encore Mauriac aujourd'hui? Et si on lit, qui est-ce qui le lit? Nous, on a notre réponse de libraire, mais vous, en tant que gens qui croisaient des...
Alors, je vais commencer par répondre. Moi, je suis surprise. Je parle des étudiants, donc dans mon rôle d'enseignante. Je suis surprise. Il y a un moment où les étudiants connaissaient Mauriac et avaient cette image très compassée. Bon, Mauriac, c'est pas très, c'est ennuyeux, etc. Bon, ou quelque chose de, oui, à la fois traditionnel, à la fois. Et aujourd'hui, ils connaissent plus. Donc c'est encore, enfin, c'est pour moi c'est beaucoup plus facile parce que je pars pas d'un sentiment négatif. Donc
là, ils connaissent plus, on ne fait plus le savoir en sixième, c'est fini.
Non, ils connaissent plus. Enfin, je parle des étudiants. D'accord. Donc en 3-4 ans, ça a changé. Il y avait cette image de Mauriac contre laquelle il fallait batailler, mais aujourd'hui ils ne connaissent plus Sartre, ils ne lisent plus Sartre, ils ne lisent plus. Alors qu'ils avaient continué. Sartre et Camus faisaient partie des écrivains du XXe. Bon. Et là, il y a quelque chose qui se passe que je n'arrive pas à expliquer, qui est un phénomène assez récent. Et Sartre, ils ont entendu parler.
On est au XXIe siècle et le XXe, c'est comme le Moyen Âge.
Non, mais j'ai l'impression que les œuvres, si tu veux, les textes, ils connaissent des textes, ils ne connaissent pas des œuvres. Et les auteurs, ça passe. Voilà. Donc je suis très, très surprise. Donc Mauriac. Bon, ben on leur fait découvrir et je crois que...
Alors, nous, ce qu'on observe avec les nombreuses classes de lycée qui viennent nous voir, c'est que c'est vrai que la façon dont les programmes ont évolué a beaucoup d'influence sur l'enseignement de la littérature. Il y a eu une époque, en effet, où vous vous souvenez, comme moi, des Bordas, c'était par siècle, enfin, vous les avez sûrement encore chez vous, donc on situait facilement un auteur dans son époque puisque c'était déjà classé de façon chronologique. Bon. On a laissé tomber ça pour aller plutôt dans des approches thématiques qui font qu'on aborde des auteurs par des extraits d'œuvres. Et donc, sur le même thème, on prend des extraits d'auteurs de différentes époques et le lycéen a souvent un petit peu de difficulté à s'y retrouver. Il sait qu'il a entendu parler de tel auteur, oui. Mais il ne sait pas le situer dans l'époque, dans son contexte, avec les autres. Enfin, c'est un petit problème. Dans la réforme récente des programmes du second cycle, donc seconde, première, terminale, dans les programmes de littérature, on a eu la chance que l'une des thématiques proposées dans ces nouveaux programmes soit le roman et ses personnages. Donc du coup, en tout cas en Aquitaine, on a pu, grâce à l'aide des inspecteurs de l'éducation nationale, réintroduire les œuvres de Mauriac dans cette thématique, le roman et ses personnages, parce qu'évidemment, ça s'y prête tout à fait. Et donc, on a de plus en plus de classes de première qui retravaillent sur des romans de Mauriac. Et comme on a eu, il y a 2 ans, le film de Claude Miller sur Thérèse d'Esquerou, évidemment, ça a permis à Gilles Lelouch et puis la petite Audrey Tautou. Bon, voilà, ça a donné une coloration qui fait que les jeunes s'y sont à nouveau réintéressés un petit peu. Donc, on a pu retravailler et on a eu à nouveau des classes de première qui ont présenté dans les textes dans lesquels on tire au sort quand ils passent leur oral, qui ont présenté Thérèse d'Esquerou. Et ceux qui l'ont travaillé avec leurs enseignants et avec nous ont bien réussi, ce qui fait que du coup, ça a provoqué des choses positives. Bon, mais c'est pour dire que ça dépend, bien sûr, de la façon dont c'est abordé au niveau des classes. Donc, dans les premières littéraires, en tout cas en Aquitaine, on retrouve désormais Mauriac. Bon. Mais il y a des moments où on est passé complètement à côté.
Alors, le fait que la région s'agrandisse vers le Limousin et le Poitou va permettre à l'œuvre de Mauriac de diffuser plus vers le nord. C'est une
absolument,
très bonne nouvelle.
D'accord. Absolument.
Et moi, je vais avoir des étudiants à nouveau qui vont avoir connu Mauriac. Voilà, Poitiers. C'est très bien.
Voilà, puisqu'on a la chance de vous avoir là, Malagar, on en a parlé, c'est aussi une saison, c'est aussi des événements. On parlera après de l'actualité des maisons d'écrivains. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu rapidement la saison Malagar, ce que vous nous présentez
oui,
pour
si
cette
vous
année, pour,
d'accord,
pour allécher votre public?
Alors, Aléchon. Donc, comme d'habitude, comme l'an dernier, nous proposons quatre temps forts. Le premier, au mois de juin, autour de la musique. Nous aurons rendez-vous au jardin qui, cette année, est décalé un tout petit peu au niveau national. C'est le 5, 6 et 7 juin. Le thème national, c'est la promenade au jardin. Bon, pas compliqué. Et donc, nous aurons une série de découvertes par la musique et par la danse, avec une collaboration avec ce qu'on appelle le pôle d'enseignement supérieur de la musique et de la danse de Bordeaux-Aquitaine, c'est-à-dire le PESMDBA, autrement dit, les élèves profs de musique et de danse qui sont après le bac, si vous voulez, après le conservatoire. Voilà, donc ça c'est une série de déambulation, de découverte du parc le samedi et le dimanche. Deuxième temps, c'est Musica Malagar le 13 et le 14 juin. C'est la 12e édition de notre partenariat avec le conservatoire de Bordeaux, Jacques Thibault. Section musique de chambre essentiellement, un petit peu piano aussi. Et on est en train d'essayer de monter, dans le cadre de ces concerts du samedi et du dimanche, l'un des concerts dans la basilique de Verdelet. On est en train d'en parler avec nos amis de Verdelet. Ce serait bien de s'ouvrir. C'est aussi une façon d'augmenter...
De prendre un peu d'ampleur, voilà, c'est très important.
Le deuxième temps fort est la lecture. Donc on va renouveler la nuit de la lecture qui aura lieu le samedi 4 juillet. Et comme on lance le même jour une journée des maisons d'écrivains au niveau national, on a cette année pris un thème. Et le thème national, ce sont les écrivains et les femmes. Donc dans chaque maison, on va essayer de proposer des expositions, des manifestations autour de l'écrivain, de la maison et les femmes. Les siennes ou celles de ses romans. Et donc en ce qui nous concerne, ça va orienter un peu notre choix de lecture grâce à cette thématique. En principe, comme d'habitude, deux artistes, un homme et une femme. Nous sommes en discussion avec les uns et les autres. L'an dernier, Pierre Arditi et Lynn Wicks, on a fait fort, il va falloir qu'on soit à la hauteur, ça va être difficile, mais on est en train de négocier, et donc je ne dis rien, puisque pour l'instant on n'a pas de réponse positive, mais nous sommes dans des très bons, évidemment. Le troisième temps fort, ce sont les vendanges de Malagar, ce seront les 17e, ce sera le 11 et le 12 septembre, et probablement autour de ce thème « Transmettre », comme j'indiquais tout à l'heure. Et enfin, le quatrième temps, c'est autour de l'écriture. C'est le mois d'octobre. Nous avons la remise du prix Mauriac, probablement le 8 ou le 9 octobre, enfin, toujours aux alentours du 10. Là, c'est un jeudi 8 à vendredi 9. Et puis ensuite, des présentations autour de l'écriture à Malagar. On n'a pas encore fait notre choix définitif pour le samedi et le dimanche. L'an dernier, c'était Génitrix sous forme d'opéra de chambre. Et je suis heureux d'ailleurs que cette expérience, cette tentative, donne lieu à des prolongements, puisque la Compagnie Legrain va faire tourner ce petit opéra de chambre, Génitrix, avec quatre artistes lyriques et deux pianos, dans des petits lieux, différents endroits, dont la maison de Julien Gracq, par exemple. Donc là aussi, c'est la création contemporaine dans des maisons d'écrivains, ce qui est intéressant.
Alors, on parle des maisons d'écrivains, puisqu'on en parle beaucoup ce soir.
Oui.
Il y a une autre actualité, puisque Jean-Claude Rago a une casquette mauriacienne et puis une immense casquette autour des maisons d'écrivains en Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'actualité qui concerne ces fameuses maisons d'écrivains en Aquitaine ?
Alors, on a depuis 1995, on a créé une fédération des maisons d'écrivains au niveau national, qui regroupe la plupart des maisons maintenant. Et on est en train de créer des réseaux par grandes régions. Et nous avons créé au début de l'année, 2014, l'an dernier, le réseau des maisons d'écrivains d'Aquitaine. Et ces maisons se regroupent pour essayer de travailler un petit peu ensemble. D'abord à être mieux connues, à se présenter, d'où l'idée de ce site internet. Et puis ensuite de faire quelques actions en commun. Bon, la journée des maisons d'écrivains au mois de juillet, des opérations que nous préparons avec les scolaires, notamment contre l'illettrisme, enfin pour les jeunes qui sont en difficulté de lecture, et différentes opérations. Alors, je vais peut-être vous montrer tout de suite le... Peut-être certains d'entre vous se souviennent du petit livret qu'on avait fait sur les maisons d'écrivains d'Aquitaine. On a posé aux collègues l'idée de rééditer cette petite plaquette. Je signale d'ailleurs qu'à l'époque, ça fait une dizaine d'années, Denis Mollat nous avait aidé à financer cette petite plaquette. Tout le monde nous a dit non, mais attendez, elle est fort jolie, mais le problème c'est que c'est compliqué parce qu'elle est un peu coûteuse, on peut pas la distribuer comme ça à tout le monde, à tout va. Et si on veut être bien diffusé, il faut passer à Internet. Donc nous avons créé un petit site. Il est en ligne, vous pouvez le consulter. Son adresse c'est MEA, ça veut dire Maison d'écrivain d'Aquitaine, mea.aquitaine.fr. Il n'est pas tout à fait terminé. La librairie Mola a décidé de créer une collection de vidéos sur les maisons d'écrivains d'Aquitaine en commençant par Malaga et voilà. Bon, c'est pour vous présenter
voilà.
Cette...
Donc de beaux projets en perspective. Voilà. Eh bien, c'est l'heure pour moi de remercier Caroline et Jean-Claude de s'être associés à nous pour vous présenter ce projet auquel on tient beaucoup. On espère maintenant que, à la fois, vous le regarderez à nouveau et vous le ferez connaître autour de vous pour que ce projet ait des spectateurs et donne des envies, en tout cas, à des gens d'aller voir Malaga en vrai. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, j'espère.